Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et nous sommes donc de retour en onde, chers auditeurs, en onde pour une chronique. Sur la question du bureau de Québec à Tel Aviv qui nous est présenté par Marc-Antoine.
Merci de l'introduction, Enzo. Donc, je vais commencer. Le bureau du Québec en Israël, situé à Tel Aviv, est annoncé cet été, au début août, bien qu'il était prévu depuis 2017. C'est la 35e représentation du Québec à l'étranger. Elle est située d'ailleurs dans l'ambassade du Canada qui est à Tel Aviv. Pour ce qui est du ministère des Relations internationales et de la francophonie, ce bureau représente le Québec en Israël auprès des partenaires gouvernementaux institutionnels, économiques, culturels et universitaires. Il assure la promotion et le rayonnement du Québec dans différents domaines relevant de ses compétences constitutionnelles. Ce bureau il agit comme conseiller auprès des autorités québécoises sur les opportunités de coopération et tout en étant l'intermédiaire des ministères organismes publics québécois auprès des partenaires israéliens. Pourquoi le Québec ouvre un bureau en Israël? C'est qu'Israël est le troisième partenaire commercial du Québec au Moyen-Orient. C'est la première représentation à l'étranger dans la région du Moyen-Orient où que le Québec fait également affaire avec la Cisjordanie, la Palestine et la Turquie. Quand il y a eu l'annonce au mois d'août, Martine Biron, qui est la ministre des Relations internationales et de la francophonie, voyait d'un bon œil l'ouverture de celui-ci parce qu'on renforce notamment nos liens avec Israël, qui date de plus de 60 ans, dans les domaines de la recherche et de l'innovation, entre autres. Comme on sait, actuellement, il y a un conflit entre Israël et le Hamas. Quelques jours après le début du conflit, le 10 octobre, l'ouverture officielle du bureau, qui était initialement prévue pour le 19 octobre, est reportée tant qu'il n'y aura pas d'amélioration des conditions de sécurité dans le pays. Le 24 novembre, la ministre annonce que l'ouverture du bureau ne se fera pas dans un avenir rapproché en raison de la continuation des hostilités dans le conflit. Pour elle, parce qu'il y a un journaliste qui a soulevé la possibilité, il n'est pas question de déménager le bureau. Pourquoi c'est revenu dans l'actualité récemment? C'est que jeudi dernier, le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, il y a une pétition qui a été initiée par le collectif de Québec pour la paix à l'Assemblée nationale, qui a été signée par Mme Rouba Ghazal, membre de Québec solidaire et députée de Mercier, qui avait été notamment candidate pour être une des co-porte-parole de Québec solidaire, qui est soutenue par 12 000 citoyens, la pétition qui demande au gouvernement du Québec d'annuler l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv tant et aussi longtemps que le gouvernement israélien renie ses obligations imposées par le droit international envers le peuple palestinien et qu'il enfreint les résolutions des Nations unies et les accords de paix. La réponse du gouvernement est restée à celle de l'annonce du mois de novembre en disant qu'on ne ferme pas le bureau du Québec à Tel Aviv. Ça représente une opportunité d'accroître les échanges avec le Moyen-Orient, qui sont en hausse d'ailleurs de 26 %. Québec solidaire, certains députés ont réagi, dont Haroun Bouazi, qui était en total désaccord avec la décision de la CAQ. Dans un message qu'il a publié sur X, M. Bouazi mentionne que la CAQ nous rend ainsi complices d'un gouvernement d'extrême droite qui accumule les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les nettoyages ethniques et qui a démarré un processus génocidaire depuis quelques mois. Tandis que Mme Ghazal a appelé le gouvernement à la prudence et de ne pas avoir les deux mains dans le conflit, tout en rappelant le risque de génocide par rapport au conflit israélo-palestinien évoqué dans la décision de la Cour internationale de justice qu'Enzo avait parlé dans sa chronique il y a quelques semaines.
Si tu me permets, Marc-Antoine, je vais même faire un petit commentaire. Moi, je pense à Lula da Silva, un président brésilien.
Effectivement, oui, j'avais vu ça passer.
Et qui a voulu. Et qui a littéralement dit que c'était ce qu'Israël faisait à la Palestine, c'était équivalent à l'Holocauste. Donc, je sais pas, mais Lula da Silva, je sais pas, là, excusez-moi l'expression, mais il a vraiment mis ses couilles sur la table, là, c'est épouvantable. Lui, il s'est dit vraiment « fuck Israël, là, c'est des pourris ». J'ai trouvé ça si drôle, C'est des termes vraiment forts. Est-ce que j'ai une question de mon collègue?
Non, juste pour nos auditeurs qui rappeler qui est Lula da Silva, qui est
c'est
député,
le président,
qui est président de...
C'est le président du Brésil actuel, qui a quand même été une élection très applaudie, justement, Lula da Silva, suite aux années de Bolsonaro.
Applaudi parce que c'est ça, c'est un président très progressiste, qui est issu presque d'un... presque socialisme réformiste, genre, qui arrivait après un pouvoir très réactionnaire. On n'était pas sûr d'ailleurs de son élection. Et Bolsonaro qui critique encore, et c'est les militants de Bolsonaro qui critiquent encore le pouvoir de Lula. Donc Lula qui est un personnage politique qui est très important à travers la diplomatie internationale. C'est pour ça que je voulais aussi le rappeler, son poids politique. Pour ça, l'importance de
Brésil,
ses déclarations.
Brésil qui est d'ailleurs membre des BRICS.
Ouais, d'où l'importance
des économies émergentes.
Ouais, c'est ça, de ce changement diplomatique. C'est comme tu
puis en plus, pour revenir justement sur Lula da Silva, son élection avait laissé entrevoir peut-être une possibilité d'une vague plus progressiste comme il y avait déjà eu en Amérique latine.
Effectivement.
Ok, je te laisse reprendre, là, c'était vraiment le commentaire, dans l'idée que Lula da Silva, lui, c'est ça, il dit que c'est comme l'Holocauste qu'il fait, puis nous, on garde un bureau là-bas, et tout ce côté d'endossement, je trouvais que ça imageait bien un petit peu les...
Oui, puis la position,
la soupe chaude.
La position de Québec solidaire est notamment que si le gouvernement maintient l'ouverture du bureau à Tel Aviv, ça pourrait être interprété comme un appui aux actions du gouvernement d'Israël.
Et de plus, effectivement, comme vous dites, le fait que des pays comme là, ici, le Brésil ou d'autres, prennent ces positions-là pourrait aussi changer le rapport diplomatique entre le Québec et ces pays-là. Puis d'ailleurs, ça crée, comme tu le disais, un débat politique au sein même des députés du Québec. Comme tu dis, il y a notamment Haroun qui est très impliqué. Mais c'est intéressant parce que jusqu'à présent, il y avait très peu d'implications politiques au Québec, hein, et de prise de position sur ce conflit-là. Même QS était très frileux, très distant et très silencieux par rapport à ce conflit-là. Donc c'est intéressant aussi de voir que les choses bougent. Haroun qui a notamment... qui a lancé aussi une pétition, qu'il essaye de lancer une pétition qui voudrait que ça fasse le plus grand écho possible, hein, une pétition pour justement l'annulation de l'ouverture de ce bureau du Québec en Israël, pétition qui est limitée jusqu'au, il va en refaire une pétition qui était limitée jusqu'au 15 février, quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant de voir que par rapport à cette question-là du bureau à Tel Aviv, que cela relance le débat sur la question palestinienne au Québec, mais qu'il y avait un certain silence par rapport à ça, politique, je trouve.
Oui. Puis concernant, tu disais qu'il y avait moins d'engagement politique, si on peut dire comme ça, au Québec, au Canada. La position officielle des deux, au Québec et au Canada, c'est la fameuse solution à deux États qui a été prônée dans les accords de paix d'Oslo.
C'est vrai aussi.
Qui date de 1993, que d'ailleurs, l'actuel premier ministre en Israël, M. Netanyahou, avait rejeté. Et je pense qu'il avait même dit d'ailleurs, je déchirerais ces accords-là pour évoquer son rejet.
Oui, ben sinon, je ne sais pas si ça avait été mentionné, mais juste pour nos auditeurs, en fait, on parle du bureau qui est situé dans l'ambassade du Canada, justement à Tel Aviv. Donc, c'est pas simplement, c'est pas notre bâtisse, c'est pas notre établissement. Et justement, il y a personne actuellement. Il n'y a pas aucun Québécois, justement, dans ce bureau-là. Ouais. Il opère tout.
Non, c'est ça, le personnel et même le chef de bureau opère à Montréal.
Donc, je crois que c'est ce qui conclut un petit peu la super chronique de Marc-Antoine.
Sauf si vous aviez...
C'est ce qui conclut, bon. À moins que vous aviez de quoi ajouter, les gars. Là.
Non, après, comme on dit, c'est encore une fois, on en reparlera dans l'émission. Ça c'est sûr. Quel impact ça a aussi sur le débat interne au Québec, sur la situation même. Mais je pense que oui, si c'est la fin de ta chronique, on va envoyer alors une page de musique et revenir pour la conclusion de cet épisode. Merci, chers auditeurs. Puis on se retrouve dans quelques petites minutes.